Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr.
Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon. Cette semaine, une émission littéraire, musicale et pictural. Notre invité est un passeur de mots, amoureux de littérature et de poésie, auteur et éditeur. Il s'appelle Frédéric Houdère. Il nous fait le plaisir de venir parler de ses passions à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Chez elle, aux éditions Sous le sceau du Tabellion. Gaëlle évoque le dialogue entre Picasso et Poussin sur le thème des bacchanales au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Guillaume nous fera découvrir Pierre de Mer et son premier album « Regarde-moi » et des 38e victoires de la musique qui auront lieu le vendredi 10 février 2023 où cet artiste est nommé deux fois dans les catégories « Chanson originale » et « Révélation de l'année ». Et bien entendu, nos Gédéon, nos coups de cœur du moment. Bonjour Frédéric Houdère.
Bonjour.
Vous nous faites le plaisir de venir au théâtre Comédie Odéon pour évoquer votre dernier roman, Chez elle, aux éditions Sous le sceau de Tabellion, mais aussi de votre métier d'éditeur et de celui de passeur de mots. On va passer en revue tous ces éléments-là, mais d'abord, on va parler de Chez elle. Chez elle, c'est votre dernier roman qui vient de sortir. C'est un court roman que j'ai lu très rapidement parce qu'il m'a tenu en haleine. On va dire. Depuis le tout début, finalement, de leur voyage en train, parce que c'est un couple qui arrive dans une ville, vous allez nous dire laquelle et pourquoi vous avez choisi cette ville, et puis bah, jusqu'à la fin, qui nous tient un peu suspendus. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Frédéric Houdère, vous nous avez tenu en haleine de ce couple qui... va à la découverte de l'endroit où une jeune femme est censée avoir habité. Je dis bien censée. Comment est née cette histoire, alors, Frédéric?
Je voulais écrire un roman déjà qui soit une histoire d'amour.
Ouais. C'est une belle histoire d'amour, c'est vrai.
Là-dessus. Comment se construit un roman? Qu'est-ce qu'on choisit finalement quand on est romancier dans ce qu'on écrit? On ne choisit pas les thèmes.
C'est vrai, ils viennent à nous.
Bien sûr que oui.
Ouais.
Donc, ces 3 jours, je les ai largement... vécu, éprouvé, mais évidemment, c'est un roman qui ne se limite pas à son 4e de couverture. Le pitch, c'est presque digne d'un film de Lelouch. Au début, un homme, une femme, une plage, un
c'est
chien,
vrai.
Vraiment. Sauf que, pour rester dans le registre du cinéma, on tire plutôt du côté de Eyes Wide Shut de Kubrick, à savoir, c'est aussi l'histoire d'un homme qui perd peut-être dans la tête de sa femme, ce que je trouve beaucoup plus intéressant.
Ouais. Il y a comme une voix off, effectivement,
y a une voix off
qui décrit ce qu'il vit.
Voilà. En fait, ce que je voulais, c'est très simple. C'est un roman qui se lit d'une traite.
Ouais.
Ce qui n'était pas le cas de mon précédent, qui est sorti au Dilettante, qui était un roman, là encore, largement inspiré de ma mère, mais qui était un ouvrage plus lourd sur l'état de plan. Là, je voulais quelque chose de fluide. Je voulais un trip. Je voulais que c'est ça un roman, une proposition narrative, c'est proposer un trip. Voilà. Le lecteur, la lectrice est libre de le refuser ou de l'accepter. Mais ma responsabilité, c'est à partir du moment où je saisis la main de la lectrice ou du lecteur, c'est de ne pas lâcher cette main jusqu'à la fin. Quand bien même il y a des grands huit, quand bien même il y a des choses un peu surprenantes, quand bien même, on ne parlera pas de la fin.
Non.
Il y a plusieurs... Moi, je reçois du courrier en ce moment, c'est vraiment intéressant ce qu'on me dit de la fin.
Non, on ne va pas raconter.
Il y a des portes qui restent ouvertes, ce n'est pas des facilités. Hein.
Non.
C'est des vrais choix de ma part et que j'assume. Voilà.
Ouais. On se promène dans une ville.
Oui.
C'est intéressant quand vous dites on prend le lecteur et la lectrice par la main. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. On nous emmène de lieu en lieu. Et cette ville, elle est bien spécifique. Pourquoi avez-vous choisi cette ville-là?
Alors, je ne la nomme pas.
Non.
Vous pouvez reconnaître Le Havre.
Voilà, on peut la deviner.
Mais il n'y a pas que Le Havre. Je suis un grand amoureux des villes portuaires. Je connais très bien Dunkerque, très bien Brest, très bien... Donc... Si je n'ai pas nommé Le Havre, c'est pas une coquetterie de ma part, c'est que ce n'est pas peut-être pas que le Havre. Voilà, c'est peut-être une sorte de Havre qui aurait glissé dans peut-être dans un monde parallèle, et en même temps les choses restent très 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 claires, très simples, très très fluides, très banales au début en tout cas. Tout le monde peut s'y retrouver.
Et la ville est un personnage. Vous la décrivez, vous l'analysez, vous la décryptez en lumière, en ombre, en matière. Oui. L'architecture m'intéresse beaucoup. Et là, vous en parlez avec énormément de douceur. C'est-à-dire que finalement, c'est vraiment ce personnage que vous aviez envie en fait, de mettre quasiment au premier plan après
Parce
les deux personnages.
C'est la ville de la femme aimée.
Ouais, voilà. C'est ça. Ouais,
et que
ouais.
Le narrateur, le personnage masculin, associe totalement les deux à leurs risques et périls. Clairement, il y a ce phénomène qu'on a tous connu, surtout au début d'une histoire d'amour où c'est la cristallisation, c'est tout ça à la fois. Après, c'est pas un couple tout jeune non plus, c'est des moments uniques, c'est des moments fragiles et tout va craquer, voilà.
Le ton est suspendu et c'est vraiment très très intéressant de voir finalement cet homme qui s'interroge. Vous le disiez, la petite voix intérieure. Il est en train de décrire ce qu'il vit, ce qui se passe dans la tête de sa femme, vous l'avez très très bien dit, et il a des doutes. Le roman s'appelle « Chez elle ». Alors, est-ce qu'on est vraiment chez elle ?
Dans quelle réalité on est ? Voilà, je n'abattrai pas mes cartes. Comme auteur, j'ai démarré dans le polar, donc j'ai écrit un certain nombre de romans noirs, et puis après, j'ai écrit une dizaine de recueils de poèmes.
C'est ça.
Et là, je me suis dit, je vais unir les deux.
Ouais.
Vraiment,
ouais.
Vraiment.
C'est très clair.
Et j'avais pas envie d'histoire de meurtre ou de choses comme ça, ça m'intéressait pas du tout. Raconter une histoire d'amour, oh que oui, ça me fichait la trouille. Hein. Je savais pas si.
C'était votre première histoire d'amour ? Écrite ?
Je crois, ouais. Avec l'histoire d'amour au centre à ce point-là, oui.
Ouais.
Avec tout le jeu des illusions possibles, mais c'était la première fois, en assumant, en tout cas au début, presque un premier degré, voilà. J'ai pas d'ironie là-dessus.
Candeur.
Oui, ce serait très facile d'être ironique au début. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est simplement qu'à un moment donné, dans l'écriture, le narrateur commence sérieusement à se questionner sur ce qu'il est en train de vivre et ce qu'on a le droit de faire nous-mêmes et parfois même dans les plus beaux moments. Il n'y a rien de... Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience qu'ils sont en train de vivre ? Quelle est sa pérennité ? Sur quoi repose-t-elle réellement ? Voilà, c'est pas un roman de Philippe K. Dick. Hein. À la fin, on ne découvre pas que ce sont des extraterrestres, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose de très...
On a dit qu'on racontait pas la fin, voilà, Frédéric.
Voilà. Mais, en fait, quelque part, c'est un roman difficile à spoiler. Aussi.
Ah, ça, je suis d'accord. Voilà. C'est pour ça, hein, vous avez vu. Hein, moi,
Le cœur, c'est l'histoire d'amour.
Je vous tends la perche et voilà. C'est vous qui faites.
Voilà.
Hein.
Ce qui compte, c'est le mouvement et que je ne vous largue pas en cours de route.
Alors, il y a un épisode aussi, nous, on adore ici l'art contemporain. Il y a un épisode qui m'a fait beaucoup rire, hein, je dois le dire, sur une commande publique de banc. Je n'en parlerai pas plus, je ne vais pas révéler, en fait, mais ils sont à la recherche, en fait, d'une commande publique de banc qui ressemble à pas vraiment des bancs.
Je peux juste
et
il
les cherche partout.
Voilà. Les détails les plus incroyables, les plus saugrenus sont tous authentiques.
D'accord. C'était ce que je voulais savoir.
Voilà. Il est possible de laisser des traces dans une ville où on n'a jamais posé les pieds.
Absolument.
Et de découvrir ses traces par la propre trace par la suite. C'est possible.
Ouais. Ça vous est arrivé, Frédéric Oudert ? Un de vos poèmes s'est retrouvé sur un banc ?
Sur une sculpture.
Sur une sculpture au Havre.
Où j'avais jamais mis les pieds.
Oui, donc c'est quand même bien peu autobiographique.
Il y a un matériau. Après, ce qui compte, c'est l'éclairage, le traitement. Voilà. Si ça avait été un récit autobiographique, je l'aurais mis, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est pour moi, c'est plus important que ça. Et pour rester sur le matériau autobiographique, en le traitant comme ça, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, alors que je croyais maîtriser ce que je faisais. Mais j'écrivais des choses qui ont correspondu par la suite à une évolution de couple et à même une création commune. Donc, voilà.
Ouais, ouais. Frédéric Oudert, on l'a dit, vous avez commencé par le polar, vous écrivez des romans, vous écrivez de la poésie. Mais ça suffit pas, vous êtes aussi éditeur. Vous êtes éditeur et vous avez créé les éditions du Clos Jouve. dont vous sortez bien sûr
j'ai
les
co-créé hein, les avec ouais, c'est Philippe
c'est
Bouvier
vrai. C'est vrai,
qui
vous
a créé l'édition Claude Jouve et qui ouais. comme je dirigeais plusieurs collections d'ouvrages précédemment qui m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure mais voilà je tiens à me préciser à mentionner Philippe Bouvier
ouais c'est très très important vous avez raison ces éditions sont superbes j'aime beaucoup leur format l'idée en fait de mettre en valeur à la fois la poésie mais aussi la nouvelle la poésie en prose et vraiment c'est une très très belle collection c'est une collection et le titre de ces éditions en fait vous sont venus eh bien de votre fréquentation de la Croix-Rousse on va pas s'en cacher sure. du bar le clos Jouve.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est qu'un clos? C'était l'endroit où on jouait aux boules.
Oui, il y a une tradition dans l'édition lyonnaise de reprendre des noms toponymiques comme
c'est
ça,
vrai.
Les éditions de la Fosse aux Ours, c'est les éditions de Pont du Change. Après, on n'est pas sur un catalogue lyonnais, même s'il y a des
Bien
auteurs
sûr.
Lyonnais dans le catalogue. On a publié Gérard Guégan, qui est évidemment un auteur de chez Gallimard, qui habite à Nîmes. Hein, donc,
Bien sûr.
Mais l'aspect géographique, oui, le café Le Clojouve est à égale distance, l'ancienne adresse de Philippe Bouvier et de la mienne. Voilà, donc on se retrouvait là. Voilà.
Tout le temps là.
Il y a une espèce d'évidence quasi organique, voilà.
Exactement. Vous avez également été directeur de collection, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Comment faire ce choix? Comment être justement directeur de collection quand on est auteur
très
soi-même?
Très simple. Très simple. À la base, il y a une seule et une même chose, je suis un lecteur.
Ouais.
Point barre.
C'est ça.
Et je mourrai lecteur.
Ouais.
Donc après, pour X raisons, quand on est lecteur, lectrice, on décide de prendre le risque d'essayer soi-même, etc. Ou de porter d'autres textes qu'on a lus et qui ont pour leur rendre justice. Mais à la base, c'est l'expérience de lecteur.
Mmh.
Voilà. Ouais. C'est une chose absolument nécessaire. Et pour avoir beaucoup échangé avec des jeunes auteurs, parfois, je suis surpris parce que ce n'est pas forcément des gros lecteurs, des grands lecteurs. Ce n'est pas une question d'âge. Hein.
Mm-hmm.
On n'imagine pas un bon musicien amateur ne pas écouter de la musique en permanence. C'est inconcevable.
Mm-hmm.
Je ne sais pas pourquoi dans le domaine de l'écriture, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si, il faut lire.
Mm-hmm.
Ce qu'on veut, pas que de la grande littérature, mais cet aspect, ce rapport-là organique à la lecture, pas pour se rendre plus intelligent, pas pour être... plus intégré, mais simplement pour se nourrir, pour être vivant, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc à la base, pour moi, c'est mon expérience de lecteur.
C'est de la poésie que vous dirigez avec
Pédalo Ivre. J'ai dirigé une collection de romans francophones aux éditions Plus d'un titre. Là, c'est vrai que le Clos Jouve compte trois collections. On fait des choix éditoriaux à deux. C'est vrai que j'ai proposé pas mal d'auteurs pour la collection rouge, des textes courts, donc poésie, micro-nouvelles, fragments, etc. Philippe Bouvier a amené d'autres auteurs, des essayistes comme Michel Sportis, des grandes plumes comme Jean-Pierre Leonardini. Voilà, on apporte chacun un petit peu nos propres réseaux et ça dessine une identité éditoriale.
Mmh.
Et surtout, il y a une identité graphique. Ça, c'était une idée de Philippe. Hein, vraiment, d'ailleurs, il voulait que les livres soient beaux.
C'est important.
Voilà. Moi, il y a 15 ans, je participais à quantité de colloques sur le livre numérique. On m'annonçait la fin du livre, etc.
Oui.
Et il y avait des gens extrêmement savants qui m'expliquaient ça yeux dans les yeux. Aujourd'hui, il y a un besoin de rematérialisation qui est là. Les gens sont prêts à payer parfois cher.
Oui.
Pour un beau livre papier. Ça n'a pas de sens de faire l'édition avec des livres moches. Mmh. Voilà.
C'est vrai.
Donc ça, c'est Philippe Bouvier a beaucoup insisté là-dessus et la suite lui a donné raison.
Mmh. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile justement avec les éditions numériques Est-ce que ça a mis de l'huile dans les rouages de l'édition, c'est-à-dire le fait qu'on puisse éditer des livres plus facilement en fait qu'à une époque hein. C'était quand même
beaucoup plus facilement.
Oui, bien sûr.
Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu là j'ai au moins connu trois époques différentes en 20 ans.
Oui.
Effectivement, les choses sont extrêmement la technique chamboule beaucoup de choses pour le meilleur et pour le pire. Effectivement, il n'a jamais été aussi peu cher de fabriquer un livre aujourd'hui. Sauf que bon, actuellement, avec les papiers, il y a un gros, gros problème.
Bien sûr.
Mais ça, on ne va pas embêter les gens avec la cuisine. Mais Pour autant, la chaîne du livre classique, traditionnelle, qui n'est pas si ancienne que ça, hein, voilà, l'auteur, l'éditeur, le libraire, le lecteur, va pas mourir demain. Et chaque maillon peut avoir vraiment son rôle à jouer. Et le rôle d'un éditeur, c'est d'offrir à un auteur dont il a repéré le texte un retour, parfois un dialogue, parfois un retravail. Moi, comme auteur, bien je l'ai sûr. Fait avec mes propres éditeurs, hein, je ne publie pas moi. Comme éditeur, on peut être amené à faire la suggestion. C'est évidemment l'autrice ou l'auteur qui a le final cut, mais voilà, qui est ce dialogue en tout cas.
Bien sûr.
Voilà. Parce que quand on est auteur, on écrit pour une lectrice ou un lecteur qui n'est pas dans notre tête. Et ça, c'est ce que j'essaye de dire à certains auteurs qui débutent. Vous écrivez pour des personnes qui ne sont pas dans votre tête. Voilà. Donc qu'est-ce qui se joue
voilà. dans cet interstice, voilà. justement, dans cet envoi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, prendre le lecteur ou la lectrice par la main. Ce n'est pas les seules de vos casquettes, auteur, éditeur, vous organisez également des événements autour des mots, très régulièrement au Périscope. Est-ce qu'on peut avoir une date de la prochaine rencontre ?
Ça fait 10 ans que j'organise un cabaret poétique au Périscope.
Qu'on
le prochain
adore.
Cabaret, c'est le 13 mars. 12 mars, exceptionnellement il ne sera pas au Périscope, mais il y en aura sans doute un en juin au Périscope. Ce sont des événements gratuits, je tiens à le dire, grâce au Périscope et à l'Université Populaire. Bah, je fais une programmation de poètes qui parfois viennent de loin, parfois viennent de l'arrondissement d'à côté. Donc on a eu des poètes slovènes, lituaniens, belges, américains, voire toulousains. voire lillois, voire de Vinicieux. Hein, surtout, il y a une vraie. Au Périscope, c'est le lieu qui est beau.
Ouais.
Il y a une vraie scène, une vraie sono, des vraies lumières.
On entend les mots,
absolument.
On voit les auteurs.
Parfois, ils sont en compagnie de musiciens, pas toujours, ça
pas
dépend.
Pas toujours. Ouais, c'est ça, c'est leur choix.
Mais ce sont toujours les poètes qui lisent leurs propres textes. Parfois, ce sont des performeurs remarquables. Parfois, c'est des lectures beaucoup plus fragiles. J'en tiens compte. Moi, mon boulot, c'est... Évidemment, les meilleurs boulots qu'on fait, c'est ceux pour lesquels on n'est pas payé. Hein. Donc, mon boulot, c'est de choisir des poètes, de les mettre à l'aise. Et encore une fois, il peut y avoir des écarts considérables en termes de performance sur scène.
Bien sûr.
C'est pas grave. Une lecture peut être fragile et être très belle. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il faut faire attention à ces petits aspects-là. Mais je n'ai rien inventé. Hein. Moi, c'est un séjour à Montréal assez long qui a fait que quand je suis revenu en France, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. C'est là que le cabaret est né il y a 10 ans.
Ouais, c'est ça. Faire entendre les mots, absolument. Et pas seulement dans le cadre de la librairie quand on fait une lecture, signature.
La librairie, ce n'est pas forcément, comme les bibliothèques, ce n'est pas forcément des bons lieux pour lire.
Je suis d'accord.
Le tout, c'est aussi incarner ces mots-là. C'est aussi un corps, hein, c'est une poétesse,
une respiration,
un poète, voilà,
c'est magnifique. Ouais.
Un poète, une poétesse qui respire bien, qui respire mal, qui... Voilà, c'est ça que je voulais partager et ça fait 10 ans que ça dure. Voilà.
Ouais, et c'est magnifique, c'est toujours des rencontres superbes. On mettra la date du prochain cabaret poétique. Qui se passera où alors, Frédéric ?
Je fais une collaboration avec l'Espace Pandora qui se passera à Vénissieux.
Ah, très bien.
Dans un lieu plus grand que l'Espace Pandora. Initialement, c'était l'Espace Pandora. Moi, comme il y a généralement pas mal de gens qui viennent au cabaret et des gens des trois générations.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire...
c'est vraiment fou. Hein.
C'est le résultat d'un travail, mais honnêtement, vous avez autant d'hommes que de femmes et trois générations.
Ouais.
C'est pas la norme, c'est pas ce qu'on voit en général dans des lectures publiques. Voilà.
Ouais, c'est vrai, donc, tout à fait. Une expérience à vivre.
Et c'est gratuit, voilà.
Merci beaucoup Frédéric Audert d'être venu nous rencontrer ici. Je rappelle le titre de votre roman Chez elle, Sous le sceau du tabellion, aux éditions Sous le sceau du tabellion, je vais y arriver. Frédéric Audert, Chez elle. Merci beaucoup.
Merci.
Gaëlle, cette semaine, tes pas t'ont conduit dans le sillage de deux monstres sacrés de la peinture, Picasso et Poussin, qui partagent un thème, les bacchanales, et dont les œuvres sont présentées en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Et l'exposition s'intitule Picasso, Poussin, Bacchanales, et elle a lieu au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Si je vous dis 1973-2023, 50 ans. Cette année, une multitude d'événements, d'expositions et de rétrospectives fourmillent au niveau mondial. 2023 marque les 50 ans de la disparition de Pablo Picasso. Dans le cadre de Poussin et l'amour, exposition que j'ai récemment chroniquée, le Musée des Beaux-Arts de Lyon consacre l'intégralité de son premier étage à Poussin, Picasso, Bacchanal. C'est en visitant successivement les deux espaces dédiés aux artistes que vous noterez combien Picasso était fasciné par Poussin, qu'il voit au musée du Louvre dès qu'il arrive à Paris. Avec La Source, tableau de 1921, Picasso travaille déjà dans la veine du classicisme français du XVIIe siècle, incarné par Nicolas Poussin. La figure féminine de La Source est d'influence toute poussinienne, puissante, monumentale, hiératique dans son attitude et généreuse dans ses formes. Les séries que Nicolas Poussin consacre aux Sabines, au Massacre des Innocents et au Triomphe de Pan inspirent les nombreuses variations réalisées par l'artiste espagnol. Nicolas Poussin peint le Triomphe de Pan en 1636. L'exposition Picasso-Poussin-Bacchanal propose en contrepoint une copie réalisée d'après le dessin original de Picasso. La composition de cette aquatinte montre combien Picasso s'empare du sujet, mais avec une surenchère de forme exaltée. En plus de l'ivresse de la Bacchanal, c'est l'enthousiaste agglomérat de corps enchevêtrés qui exacerbe le vertige. Nicolas Poussin est le point d'entrée pour cette exposition qui s'oriente ensuite sur les années de création de Picasso pendant la Seconde Guerre mondiale. Des photos prises en 42 pour le magazine Vogue par Lee Miller, l'égérie de Man Ray, devenue correspondante de guerre, témoignent de la notoriété de Picasso. Reportage photographique complété par des clichés de 44 pris par Brassailles. En 1943, Picasso rencontre François Gillot. Paloma et Claude naîtront de leur union. Août 44 marque la libération de Paris. Picasso souhaite immortaliser, après des années d'occupation, une célébration festive de la vie. C'est à cette période que Picasso reprend le Triomphe de Pan et inaugure les multiples déclinaisons de la thématique de la Bacchanal en dessin, gravure et terre cuite. La section de l'exposition intitulée « Après 1945, la joie de vivre » expose des dessins d'une série inspirée par François Gillot, en lien avec le tableau de 1946 intitulé « La joie de vivre ». La joie de vivre qui, sachez-le, se nommait initialement « Bacchanal au bord de la mer ». On retrouve dans ses dessins la chevelure caractéristique de François Gillot, surnommée, pour évoquer sa personnalité solaire, la femme fleur. C'est bien elle qui mène la danse dans la joie de vivre. Toujours dans cette section, admirez le Tanagra, en terre de faïence blanche, Tanagra Quesaco, c'est une statuette de terre cuite en forme de vase qui représente une femme. Le Tanagra au long cou de Picasso date de 47-48 et a été réalisé dans le fameux atelier Madura à Valoris. Picasso Poussin Bacchanal se conclut avec la diffusion d'un extrait du film La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. En 1991, le réalisateur adaptait librement la nouvelle Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, dont le peintre Nicolas Poussin était l'un des héros. Entre 1937 et 1955, Picasso a vécu et travaillé dans l'atelier des Grands Augustins, qui faisait partie de l'hôtel de Savoie-Carignan, où l'on pense que Balzac avait placé l'action de sa nouvelle. Cet extrait marque le dernier clin d'œil du dialogue entre les deux artistes. L'exposition est à voir jusqu'au 5 mars 2023, même date que l'exposition consacrée à Poussin et l'amour. Plus d'informations sur mba-lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Deux monstres sacrés, comme je le disais tout à l'heure. Et une très belle exposition justement dans ce deuxième étage, enfin premier étage on va dire, hein, du lieu d'exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts. Guillaume, une fois de plus, tu évoques pour nous un artiste qui se retrouve sous le feu des projecteurs et qui va faire parler de lui au moment des victoires de la musique. Il est belge et se nomme Pierre de Maer.
Alors Pierre de Maer, pour être plus précis, Pierre parce que je crois que ça se dit Pierre Demar. Donc oui, Pierre Demar, un jeune artiste belge qui va faire beaucoup par, enfin qui fait déjà beaucoup parler de lui, puisqu'il a sorti il y a très peu de temps son premier album qui s'intitule Regarde-moi chez 5-7. Et donc depuis quelque temps, il fait pas mal de concerts et il se trouve qu'il était aux Nuits Givrées de Dardilly il y a peu. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les Nuits Givrées parce qu'ils ont fait 3 jours formidables, quasi tous complets, avec Albin de la Simone, Florent Marchais et Pierre Demar, qui ouvraient pour Aurélie Saada. Donc Pierre Demar, bah, c'est un jeune, évidemment, qui écrit des chansons pour des jeunes. Voilà. Alors, c'est peut-être pas la cible, enfin, c'est peut-être pas ce que j'écoute moi d'habitude, mais je trouve que ce jeune est finalement assez sain. Et quand il est sur scène, vraiment, il dégage quelque chose d'assez survolté, voilà, c'est quelqu'un qui interagit beaucoup avec son public, il virevolte, sa voix va dans les aigus, et c'est quelqu'un d'assez finalement accessible. Alors je pense que quand même malgré tout, vous l'avez déjà entendu parce que évidemment il y a un titre qui est, comme il le dit avec beaucoup d'humour sur scène, qui est son tube, déjà son seul tube, son unique tube, « Je marierai un ange ». Alors c'est pas ce qu'on va écouter tout de suite, ou son dernier titre qui vient de sortir, « Fils de », qui a été clippé. Alors il fait aussi très attention au visuel, hein, au clip, à la mise en image de ses chansons. On va écouter un titre qui est sur l'album, mais qui n'a pas encore été mis en image, juste pour vous le faire découvrir. Ce titre s'intitule « Jour moins 3 ».
Je m'émerveille, je vois nos corps allongés sur la plage. Et quand je tourne les pages, j'aperçois le soleil qui tape sur ton visage et crie à mes oreilles de m'approcher tant qu'il est temps. Alors avec mes airs un peu trop sûrs qu'il s'en est faux, je te prends dans mes bras et toi tu dis très peu de mots. Assez quand même pour me souffler combien tout ça est beau. Ce soir j'en veux encore. Et jour moins 3 avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et jour moins 3 avant l'amour fou, ça y est, je te viens battre. Ce soir je m'abandonne, j'entends le ciel qui parle de mariage. Je tourne les images dans ma tête. J'en ai des idées folles, je vole sur le rivage. Ta fille qui est la mienne et compte pour nous deux les bateaux. Alors avec mes airs un peu trop sûrs que ça ne faut, je te prends dans mes bras et toi tu dis très peu de mots. Assez quand même pour me souffler combien tout ça est beau. Ce soir j'en veux encore. Et jour moins 3 avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et jour moins 3 avant l'amour fou, viens battre. Jour moins 3 avant l'amour fou, ah, jour moins 3 avant l'amour fou, oh.
Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. Je suis de ceux qui rêvent d'amour à mort sur un ciel bleu. Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. Je suis de ceux qui rêvent, moi.
Et jour moins 3 avant l'amour fou, j'écris déjà l'histoire dans ma tête. Et jour moins 3 avant l'amour fou, ça y est, je te viens battre.
Donc c'était Jour moins 3 de Pierre Demar sur son premier album Regarde-moi. Évidemment, moi j'ai retenu une phrase dans ce titre. Rien ne va trop vite pour un cœur amoureux. Je suis de ceux qui rêvent d'amour à mort sous un ciel bleu. Donc évidemment, ça pourrait faire un petit peu pour Midinette, hein, voilà. Mais et puis en plus sur la pochette, et puis quand on le voit comme ça, il fait un petit peu maniéré, un petit peu dandy, voilà. Mais encore une fois, c'est de la musique, voilà, très agréable et très accessible. Moi, je lui pense une destinée à la Angèle, voilà, au masculin, parce que franchement, voilà, c'est très agréable. Et donc, comme on le disait en ouverture, eh bien, il sera aux Victoires de la musique et il est nommé pour la meilleure chanson, donc Je marierai un ange, et puis aussi pour la révélation masculine de l'année. Et je pense qu'il l'aura facilement, parce que vraiment, c'est un personnage, ce Pierre de Mer, et c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très accessible et qui, à mon avis, va connaître un immense succès.
Merci beaucoup, Guillaume. Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur. Gaëlle, à quoi as-tu pensé cette semaine ?
Alors, en 1974, Georges Perec écrivait la phrase suivante dans son ouvrage « Espèces d'espace ». Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner. Trouver un endroit où vivre, voilà l'idée que reprend la thématique de la prochaine fête du livre à Bron, festival qui est mon Gédéon de la semaine. Programmé du 2 au 5 mars prochain à l'hippodrome de Bron, la fête du livre à Bron pose ainsi l'impérieuse question de notre place dans le monde. La place, notre place. J'ai tout de suite songé à la précédente fête du livre à Bron, pendant laquelle j'avais assisté avec beaucoup d'intérêt au grand entretien de l'autrice Claire Marin pour son passionnant essai « Être à sa place ». Depuis 1987, la fête du livre de Bron accueille la littérature contemporaine. Pandémie, écologie, société de contrôle, crise identitaire, violence sociale, migration seront des sujets abordés, mais cette liste est loin d'être exhaustive. La fête du livre à Bron programme des rencontres avec les auteurs en tout genre, illustrateurs, poètes, romanciers, historiens, des grands entretiens, des conférences, tables rondes, un café littéraire, des lectures, mais aussi des ateliers, expositions et projections. À noter parmi les invités de l'édition 2023, et vous allez trouver vos favoris, hein, Guillaume et Gaël, Mishka Assayas, Florence Aubenas, Philippe Claudel, Brigitte Giraud, Philippe Janeda, Lola Lafont, Laurent Mauvignier, Véronique Olvaldé, Anthony Passeron, Denis Podalides, etc. Je ne peux pas tous les citer et vous invite à vivement vous rendre sur fetesdulivredebron.com pour dévorer le programme et vous inscrire à la multitude d'événements organisés du 2 au 5 mars prochain.
Merci beaucoup Gaëlle. Guillaume, avec quelle préconisation es-tu venu ? Un beau
Alors
livre,
moi, avec
visiblement.
Un très très beau livre, un très grand livre en fait, un livre évidemment d'histoire, enfin non pas évidemment, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes, par Tal Brutmann, Stefan Ordler et Christophe Kreutzmüller, qui sont trois historiens majeurs sur l'histoire de la Shoah. Alors c'est un livre qui est basé sur le fameux album d'Auschwitz, qui est un album de photos qui a été retrouvé dans le camp par Lily Jacob, qui était une personne qui donc est une rescapée et qui en fait s'est reconnue sur certaines de ces photos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces photos donc ont été prises par les criminels, par les nazis, pour montrer en fait en 1944, entre la mi-mai 44 et le début juillet 44, la déportation de milliers de juifs de Hongrie, hein, la dernière grande déportation et l'assassinat donc de ces juifs. C'est un livre admirable parce qu'on avait déjà ce livre de photos, mais là avec tout un appareil historique qui nous explique beaucoup de choses, et on peut se rendre compte à quel point la photographie peut-être une source historique, et quand on la décrit précisément, quand on l'étudie précisément, eh bien, on arrive à lui faire dire des choses et finalement à prouver effectivement l'existence de la Shoah, ce que certains encore aujourd'hui mettent en doute. Donc c'est vraiment un livre essentiel, c'est un très très gros livre. Je rappelle le titre parce qu'il est un petit peu long, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes, c'est aux éditions du Seuil. Toutes les médiathèques de France devraient posséder ce livre admirable.
Merci beaucoup Guillaume, c'est vrai que c'est un livre qui est très impressionnant. Ça donne des visages, si vous voulez, à beaucoup de visages qui ne sont plus évidemment. Et c'est une documentation qui est très forte, hein, qui incarne véritablement...
Mais c'est tout à fait ça. Et donc, ouais. Lily Jacob, quand elle a retrouvé cet album, en fait, a reconnu une partie de sa famille, le rabbin de son village. Et donc, ça a permis, effectivement, de retrouver, de mettre des visages sur des noms qui avaient disparu. Je précise qu'il y a quand même quelque chose qui est assez essentiel, parce que c'est difficile, le sujet de la Shoah. Surtout, ben, voilà, les gens connaissent Auschwitz. Et en fait, Auschwitz, c'est vraiment l'endroit le plus difficile pour expliquer la Shoah. Pourquoi ? Parce que ça a été à la fois un camp de travail, un camp dit de concentration, et un centre de mise à mort, d'accord. Et en fait, les Juifs de Hongrie, eh bien, n'ont pas pénétré dans le camp, d'accord. La plupart du temps, ils ont été sur cette fameuse rampe, la sélection, et puis ils ont tous été amenés à la chambre à gaz. Donc, ils n'ont pas été tatoués pour aller travailler. Donc, c'est des gens qui ont été détruits, voilà, par les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc, c'est pour ça que ces photos, c'est un témoignage qui est assez unique. Alors, attention, ce témoignage, on l'avait depuis très très longtemps. Là, ce qui est intéressant, c'est l'appareil autour, l'appareil historique qui permet de préciser les choses. Parce que ces photos, on les connaissait. Elles ont servi d'ailleurs pour les procès, le procès, entre autres, le procès de Francfort. Non, alors pas pour le procès Eichmann, mais pour le procès de Francfort, qui était les premiers procès en Allemagne concernant les criminels nazis. Et donc, voilà, ces photos, elles ne sont pas inconnues. Mais par contre, toute l'explication précise de pouvoir les remettre dans un ordre précis, parce que dans cet album photo, en fait, elles avaient été placées par les bourreaux dans cet album. Et là, les historiens font un travail de déconstruction-reconstruction qui est vraiment passionnant. Et ça permet donc une identification, et comme tu le disais, eh bien, de mettre des visages sur ces personnes, et puis voilà, de les rattacher à des noms. Et puis bon, ce livre évidemment sort là ces temps-ci, donc le 27 janvier, c'était non pas la libération du camp d'Auschwitz comme on l'entend souvent, mais plutôt sa découverte. Le camp n'a pas été libéré parce qu'il n'y a pas eu de combat. Voilà, il y avait encore des prisonniers, mais effectivement, c'est la découverte par l'armée rouge. Mais donc voilà, c'est vraiment un bouquin essentiel.
Merci beaucoup, Guillaume. Pour moi, eh bien, c'est un film d'animation sorti le mercredi 1er février sur nos écrans. Ça pourrait paraître être un peu plus léger que ce livre essentiel dont tu viens de nous parler. Et pourtant, ce film parle d'exil avec subtilité. Ce film s'appelle Dounia et la princesse d'Alep. Pour partager avec les plus jeunes l'histoire universelle de l'exil, la Syrienne Maria Zarif, installée au Canada, a opté pour le dessin animé. Le film était en compétition au festival d'Annecy et raconte l'histoire de Dounia, une orpheline de mère de 6 ans qui va prendre le chemin de l'Europe puis de l'Amérique pour fuir la guerre. Vie dans les camps, passage des frontières, voyage à bord d'un canot, la mort rôde, mais la petite fille peut compter sur la bienveillance de la princesse d'Alep, un esprit lié au souvenir de sa mère. Et lorsque la situation est désespérée, elle peut utiliser quelques graines de baraké, une épice aux vertus curatives qui va faire des miracles. La réalisatrice, qui a grandi entre Alep et l'Arabie Saoudite, avant de s'installer à Québec, a voulu être la plus sincère possible dans sa description de sa ville natale, dans sa diversité culturelle et religieuse. J'ai été séduite par la touche de poésie et de surréalisme qui nimbe cette histoire. Je suis certaine que vous aimerez ce long métrage d'animation au charme graphique indéniable. La petite fille et ses grands-parents sont inoubliables. Il y a des films si forts sur la monstruosité de la guerre et la fuite des populations civiles qu'ils valent toutes les belles paroles du monde. Des films si bouleversants qu'on se dit que tous les enfants devraient les entendre pour mieux comprendre nos sociétés. Le film s'appelle Dounia et la princesse d'Alep. Il est sur tous nos écrans actuellement. Bonne semaine! À la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.